Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour à tous. Avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société Neria. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute !
Bienvenue dans ce nouveau podcast Advocate, podcast destiné à vous faire découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business ? Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie, exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant des méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on transfère aux avocats les compétences nécessaires pour développer leurs activités et leur permettre de réussir sur leur marché. Notre invité du jour est Yann Hutschneider. Dans ce podcast, il va nous parler de ses débuts dans la politique pour ensuite se concentrer sur le droit. Il nous dévoile ses débuts en tant que collaborateur, puis son association, mais également son changement de cabinet après cette association. Il fait partie de ces personnes qui se plaisent relativement partout où ils vont, et il garde un bon souvenir de toutes ces expériences. C'est l'oreille tendue que nous l'écoutons. En parlant d'oreille tendue, malheureusement, le micro de Valentin s'est coupé à mi-chemin. On s'excuse de la qualité de son temps de parole, mais le principal c'est que vous puissiez entendre notre invité de manière audible. Nous espérons que ce podcast vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le diffuser et en parler autour de vous. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne découverte de la conversation entre Valentin Tonti-Bernard et Yann Hutschneider.
Eh bien écoute, bonjour Yann Hutschneider, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui ici. On s'est rencontrés pour la première fois il y a moins d'une semaine. Tu étais présent à la soirée de la NDJCE avec ta colistière pour l'Ordre des avocats de Paris, l'élection qui va avoir lieu en novembre. Tu n'es pas là pour ça. On m'a dit qu'on n'était pas politique et tu m'as dit, je te promets, on n'en parlera pas trop, etc. Donc, je te dis bien. Et j'ai passé un super moment avec toi. Je me suis dit, en fait, pourquoi pas t'avoir sur le podcast? Surtout que j'avais une camarade qui était dans la promotion en dessous de moi au DGC de Nancy, qui s'appelle Loubouna et qui m'a dit plus grande dire de toi. Donc, je me suis dit, faut rencontrer Yann et bonjour Yann.
Bonjour Valentin.
Alors, Yann, ma première question est toujours la même. Qui étais-tu avant de devenir avocat?
Alors, si je regarde un peu dans le rétroviseur, et je vais surtout me limiter à ce qui est professionnel, moi, j'ai vécu, en fait, mon enfance, collège, lycée, à Strasbourg. Je suis alsacien, je me revendique comme tel, d'ailleurs. J'étais un élève qui fonctionnait bien, mais avec une certaine insouciance, d'ailleurs insouciance que je trouve que beaucoup de jeunes ont perdu, avec la pression qu'ils ont. Bon, c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais voilà, moi j'ai connu quand même une forme d'insouciance pendant mes années de collège et de lycée. Et voilà, après mon bac, tranquillement, je me suis pas trop posé de questions. Je suis allé en fac de droit à Strasbourg, hein, fort logiquement. Et là, je dirais que ça a été un peu une révélation. Parce que c'est sûr que du droit, on n'en faisait pas, hein, en tout cas à mon époque, comme dirait ma fille. Et donc, je suis arrivé en fac de droit ne sachant pas non plus totalement où je mettais les pieds. Et tout de suite, ça m'a plu. En fait, ça a été immédiat. La greffe a pris tout de suite. Et je me suis senti vraiment comme un poisson dans l'eau en fac. Alors, surtout sur les matières public, politique, donc le droit constitue, voilà, l'histoire du droit, mais j'avais aussi accroché avec le droit privé. Et la particularité de la fac à Strasbourg à l'époque, c'était le droit de l'Union. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui progressivement en fait va s'installer chez moi et qui finalement va être un espèce de travail un peu souterrain de ce que sera ma future carrière, mais sans que je le sache à ce moment-là. C'est que avec les matières de droit de l'Union, alors surtout à partir de la maîtrise, puis en master 2, qui vont avoir une vraie importance pour moi. Donc moi je vais faire en fait d'abord une maîtrise de droit public. Donc je suis publiciste donc de formation, et ensuite je vais être amené à partir à Louvain, mais côté flamand, à la Catholic Universität Leuven, où là je vais passer une année absolument exceptionnelle chez nos amis flamands et belges, à avoir des cours en anglais, de droit de l'Union, avec celui qui va devenir le président de la Cour de justice donc de l'Union, qui est Koen Lenaerts, qui est quelqu'un d'absolument extraordinaire, et puis un certain nombre d'autres professeurs tout à fait émérites, comme Jacques Steinbergen, voilà. Et à Strasbourg aussi, j'ai rencontré vraiment des profs de droit de l'Union exceptionnels, comme Jean-Paul Jacquet, comme Denis Simon, comme Constantinesco, comme donc également Robert Kovar. Voilà, il y avait à cette époque-là, à Strasbourg, une espèce de pépinière très importante, dont sortiront d'ailleurs d'autres, comme Anne Waxman, donc de droit de l'Union. Et ça, c'est mon parcours. Je pars en Belgique et j'en reviens aussi avec beaucoup de distance. Je dirais, ça m'a beaucoup appris, la Belgique, en ce sens que je me suis rendu compte que voilà, la France, c'était pas tout, que la France était vue aussi de l'étranger d'une certaine manière, qu'il fallait avoir plus de modestie au sein de l'Union, vis-à-vis, que ce soit nos amis belges, allemands. Parce que dans ce diplôme que j'ai fait, ce troisième cycle, il y avait voilà, des gens qui venaient d'à peu près de toute l'Europe, des Espagnols, des Allemands, et j'ai beaucoup sympathisé aussi avec des Belges. Et là, je me suis rendu compte que voilà, très souvent, malheureusement, les Français étaient perçus comme un peu prétentieux,
bizarre,
notamment lorsqu'ils venaient à Bruxelles auprès des institutions européennes. Et ça m'a toujours travaillé, ça, et dans mes dossiers aujourd'hui, lorsque j'ai des dossiers au niveau de la commission, voilà, il y a des choses que j'essaye de ne pas faire, me souvenant de ce que j'avais entendu, de ce que j'ai entendu maintenant il y a plus de 25 ans, de pas arriver forcément avec des anciens ministres dans les dossiers, des choses comme ça, qui sont pas forcément très bien perçues du tout par les autres nationalités et aussi par les fonctionnaires de l'Union européenne.
Très clair. Et du coup, tu finis ce cycle-là, et là, immédiatement, tu passes le concours d'entrée à l'école d'avocat. Tu viens t'installer à Paris ou tu as des étapes intermédiaires?
Non, je vais avoir des étapes intermédiaires parce que, en fait, à ce moment-là, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. J'étais quand même très attiré par la chose publique, la chose politique. Et donc, je rentre de Belgique. Et là, il y a une espèce d'opportunité qui s'ouvre pour moi, qui est de diriger une campagne électorale. Bon, donc là, j'ai 21 ou 22 ans, je ne sais plus. Et par un copain, on me propose de diriger une campagne électorale pour les élections législatives de 1993. Je suis désolé, tout ça date un peu.
1993, c'est une belle année. C'est l'année où Dapi ramène la Champions League à l'OM.
Moi, je n'ai pas ramené la coupe. il me propose, donc là, on parle d'une personne que je vais nommer, parce que c'est une personne qui a compté, qui s'appelle Robert Grossmann, qui est une figure locale du monde alsacien, de la politique, une figure, on va le dire, hein, du RPR à l'époque, et qui me propose de devenir son directeur de campagne donc pour les élections législatives dans une opportunité incroyable, que j'accepte, on discute, on se rencontre. Et donc, le truc part au mois d'octobre pour des élections en mars. Et donc là, ça va être un rythme absolument intense d'élection, de préparation. Et en fait, c'est un moment où je vais beaucoup apprendre. Alors, je pense que lorsque je regarde un peu là et que je me dis que j'y suis allé trop jeune sur un poste comme ça, parce que lui, c'était une personnalité très exigeante, très puissante, très moteur, très insatisfaite aussi, je pense, toujours sur le qui-vive. Et en fait, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, presque je peux remercier parce qu'il m'a réveillé. J'étais dans un espèce de rythme étudiant, facile, sympa, de copains. Et là, première confrontation finalement avec un monde professionnel, c'est un peu le choc, quoi, parce que tous les matins, il nous astiquait, il disait où est-ce qu'on en est, on est nulle part, il faut avancer, c'est quoi les idées du jour, qu'est-ce qu'on fait, où est le programme, enfin, toute une série de choses qui ont fait que de ce mois d'octobre à mars 93, ça a été très intense. Il m'a beaucoup sollicité, j'ai beaucoup appris, et je pense en effet que il m'a réveillé. Alors, il a été battu. Alors, en même temps, je m'étais inscrit discrètement en maîtrise de Sciences Po parce que je me suis dit, si jamais il est battu, j'ai un trou dans mon CV, quoi. Et en fait, directeur de campagne électorale dans un CV, c'est pas toujours facile à vendre. J'avais fait une espèce d'inscription un peu dormante en maîtrise de Sciences Po que je vais réactiver à partir
en avril,
mars, à partir d'avril, où je vais rattraper une année en un mois pour obtenir ma maîtrise. Mais c'est vrai que s'il avait été élu, il y avait un premier tournant. Avocat. Je serais peut-être pas avocat ou plus tard, peut-être que j'y serais venu. Mais très clairement, je serais parti comme assistant parlementaire de Robert Grossmann. Mais ça a été vraiment un moment absolument dingue. Jacques Chirac est venu sur la circonscription. Je l'ai vu à l'œuvre en train de remonter une rue entière, de saluer tous les commerçants. Enfin, pour dire, c'est que Robert Grossmann, c'est quand même quelqu'un, ce qu'il m'a toujours dit, c'est qu'il avait repéré Nicolas Sarkozy. Donc, il est le patron de ce qu'on appelait l'UJP en 1975. Et dans les jeunes, en fait, il repère Nicolas Sarkozy et le fait monter. Donc, une vraie figure, mais qui n'est jamais allé au Palais Bourbon. Donc là, il y a très clairement un premier tournant qui se passe. Dans la foulée, parce que moi, j'étais toujours dans une volonté de me dire soit de la politique, soit je deviens fonctionnaire, je passe les concours, alors le Quai d'Orsay, l'ENA. Mais en fait, très souvent, quand on est stage là en province, on a quand même des formes de en fait, on se minore beaucoup, on se sous-estime beaucoup, ça, je trouve.
Beaucoup d'autocensure.
Beaucoup, ouais. Et en fait, on se dit, c'est pas pour nous, il faut faire Sciences Po Paris. Donc, c'est vrai que les barrières, elles sont psychologiques, mais en fait, on se les met soi-même. Et là, j'ai une autre proposition qui arrive, donc après la défaite au deuxième tour, quand même, donc de 1993, c'est qu'on me propose de rentrer au conseil régional d'Alsace. Bon, l'enracinement local, il est quand même assez fort chez moi. Et j'avais le contrat, il était signé, je rentrais comme cadre, je ne sais plus quoi, au conseil régional. Et là, je dis au directeur général des services, je veux faire ma thèse en même temps. Et là, il me dit, moi, je n'ai pas besoin de moine. j'en ai déjà un dans mon équipe. Donc maintenant, les pots de chagrin, c'est bon, ça suffit. Maintenant, il faut que tu te lances et que tu rentres chez moi. Et là, Je n'ai pas senti le truc. Je me suis dit, je sais pas, j'avais le contrat sur mon bureau. Je me suis dit, non, mais là, à 22 ans, je ne suis pas au bout. Et donc, c'était quand même financièrement intéressant pour moi parce que ça me permettait d'avoir une autonomie, de me lancer. À ce moment-là, je me dis, non, il faut que je lance les dés. Il faut que je les relance. Et là, je pars en effet à ce moment-là à Paris. Je fais un troisième cycle à l'ESCP. Et c'est ça qui va être assez décisif. Ça va être décisif parce que d'abord, je rentre dans le monde parisien.
Dans une très belle école de commerce.
Dans une très belle école de commerce, avec des copains qui vont arriver de différents endroits, d'Assas, de Paris 1. Donc là, il y avait une espèce de brassage qui se fait. On n'était pas très nombreux, on était une vingtaine dans ce master. Mais très clairement, il se passe quelque chose à ce moment-là. Et là où ça va être le plus important, c'est que, comme dans toutes ces formations, je vais devoir faire un stage. Et ce stage, je vais le faire chez Gide. Et là, c'est le début de l'aventure, en fait. Je suis reçu d'abord en entretien chez Gide pour le stage. Et par Éric Martin Imperatori, qui fait du droit immobilier chez Gide. Tout de suite, ça se passe bien. Le courant passe bien. On rigole pendant l'entretien de stage. Je me dis, si c'est ça, les cabinets, c'est pas mal. Bon. Et là, j'arrive dans l'équipe concurrente chez Gide. Bon. J'arrive donc une équipe qui est à ce moment-là dirigée par Dominique Voilemont, qui sortait du Conseil de l'Ordre à ce moment-là, ou qui était peut-être encore. Et puis, dans cette équipe, il y a Joël Salzmann, Antoine Chauffel, Florence de Beugheim et Philippe Matignon. Donc, c'est une assez petite équipe. Et donc, moi, je suis l'un des deux stagiaires à cette époque-là. Et là, c'est un vrai, c'est une vraie révélation, là encore pour moi, comme la première année de fac, parce que je rentre dans une équipe où les gens sont hyper sympas. D'abord, ils sont courtois, aimables, des dossiers absolument hallucinants pour quelqu'un qui arrive de l'ESCP, mais qui arrive aussi de son Alsace natale. Et là, franchement, tout de suite, là aussi, ça marche bien. Et là, ça me plaît, en fait. Je suis là encore comme un poisson dans l'eau, de me dire, mais Gide, c'est vraiment génial. Je travaille surtout à ce moment-là avec Philippe Matignon, mais Dominique Voilemont aussi me demande de préparer ses colloques. Voilà, le truc, la mayonnaise prend. Et là, je dois rester 4 mois en stage, mais bon, c'était une petite équipe, il n'y avait pas de place. Et puis moi, il fallait que je parte faire mon service militaire. À cette époque-là, ça existait. Dominique Voilemont me propose pour partir comme coopérant à Tokyo. Mais ça ne se fera jamais. Et donc, je devais être le coopérant de Gide à Tokyo. Ça ne se fera jamais parce que j'avais fait une préparation militaire supérieure à ce moment-là. Et une fois qu'on a fait une PMS, l'armée te veut. Il faut rester dans le circuit militaire. Donc, je sors de chez Gide, je passe mon CRFPA, que j'ai dans la foulée après avoir bossé de manière un peu acharnée en un été, et je pars faire mon service, mais sans aucune idée de ce que sera ma vie professionnelle. Je sais que je vais devenir avocat à ce moment-là, puisque j'ai réussi mon CRFPA, mais je ne sais absolument pas où je vais atterrir. Est-ce que je serai avocat à Strasbourg, à Paris donc je pars faire mon service militaire, et donc au lieu d'être à Tokyo, j'atterris à Évreux pour faire donc la formation d'élève officier de réserve. Donc là, je passe 2 mois à Évreux sous la flotte, au mois de janvier et février 1995, si je me souviens bien. Et ça aussi, ça me plaît. Voilà, une belle expérience humaine.
Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Tout aimé. Poisson dans l'eau avec Grossman, poisson dans l'eau chez Gide, poisson dans l'eau l'armée.
Avec Grossman, ça a été... J'ai eu des journées difficiles.
Okay.
Ah ouais, parce que il était un peu dur sur l'homme, quand même. Mais ça m'a fait une carapace. Alors moi, j'ai une grosse résilience. C'est ce que me dit toujours ma femme aussi. C'est que finalement, parfois, quand on me tape dessus ou quand on me dit ça va pas, il y a des gens, ils renoncent. Moi, c'est l'inverse. Moi, ça devient un moteur. Donc ça, c'est un truc qui, chez
moi,
c'est
une qualité qui est incroyable, parce que en réalité, je discute avec du coup pas mal de patrons de cabinets d'avocats comme toi, ou pas mal d'associés de cabinets d'affaires, et en fait, personne ne le dit, mais la compétence principale qu'on attend d'un stagiaire dans des cabinets comme le tien ou d'un collaborateur, c'est la résistance au travail dans un premier temps, avant de pouvoir développer la technique. Bien sûr, la technique est importante, le LLM est important, etc. Mais la résistance au travail, ça, c'est vraiment ça le moteur.
Ah oui, c'est clair que la capacité à bouffer des heures, alors je sais qu'aujourd'hui, c'est très important, le life balance.
Ça, mais quand tu es payé 100 000, tu as choisi ton modèle, tu vois, c'est un up or out. Soit derrière, tu veux travailler, tu viens dans des cabinets comme ça d'excellence et là tu travailles, soit tu peux aller ailleurs, il y a d'autres possibilités.
Moi, c'est ce que je dis parfois à mes collaborateurs, mais qui doivent me prendre pour un vieux con, mais je leur dis, mais vous avez 26 ans et vous gagnez plus que ce que peut-être vos propres parents n'ont jamais gagné dans leur vie. Un patron de supermarché ou de hypermarché qui va avoir 50, 100 personnes sous ses ordres, ben, il va gagner quoi ? Il va gagner 3 500 €, 4 000 €. Ce sont déjà des sommes importantes. Et donc, nous, on commande à des stylos surtout. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, très clairement. Mais il y a un moment, il faut aussi je ne veux pas du tout dévaloriser ce qu'on fait. C'est important. On est porté par un marché, bien entendu. Mais voilà, il faut bien avoir conscience aussi dans quoi on s'insère, de ce qui est la vraie vie aussi.
Je suis assez d'accord avec toi. Tu finis ton service militaire et là, du coup, tu deviens avocat. Tu deviens avocat où ?
Alors, pendant mon service que je fais à Salon de Provence dans l'armée de l'air, donc là, je passe rapidement parce que je pense que... mais vraiment, comme tu dis, j'adore parce que j'ai ma Jeep, j'encadre des soldats, etc. Et là, je suis resté en contact, en fait, avec Philippe Matignon de chez Gide. Et puis un jour, je vais sur Paris, je déjeune avec lui, et là, il m'annonce, écoute, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer, je m'en vais. Donc là, il m'annonce qu'il part dans un autre cabinet et il me dit ensuite, et donc on a discuté en interne et on a réfléchi pour me remplacer, on a pensé à toi. Voilà, j'étais absolument surpris parce que j'avoue que je ne m'y attendais pas. Mais là, je dis, génial, très bien, quand est-ce que je commence ? Et je me souviens, je quitte mon service militaire, ça devait être le 2 octobre à Salon de Provence, et le 3, petite erreur d'ailleurs de ma part, parce que j'aurais quand même pu prendre un peu plus de temps que ça, je commence chez Gide, donc au début en binôme avec Philippe Matignon pendant un mois ou deux, mais dans l'équipe de Dominique, de Joël, d'Antoine et de Florence de Buguet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle chez Gide les bébés Gide, stage, collaboration et ensuite devenir partenaire, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard.
Ouais, carrément. Alors du coup, tu peux nous parler un petit peu de ta carrière, sur ta carrière d'avocat, si on dézoome un petit peu sur les différentes années que tu as passées. Tu commences donc du coup chez Gide avec Matignon. Et derrière, tu fais quoi ? Tu restes combien de temps là-bas ?
Alors, chez Gide, je démarre dans l'équipe en effet de Dominique et je suis recruté à la fois par Dominique, mais aussi pour travailler celle qui était sa collaboratrice numéro 1, Joël Salzman. Et donc là, je rentre tout de suite dans des dossiers de concurrence. Dominique me met tout de suite sur une entente dans le secteur du BTP. Et j'apprends beaucoup au contact de Dominique, qui est vraiment qui était un homme absolument charmant, toujours de bonne humeur, toujours en train de plaisanter. Sa devise, c'était travailler en s'amusant. Et ça, et je pense que c'est important parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai eu la chance finalement d'avoir des espèces de mentors dans ma carrière, que ce soit mes professeurs de droit ou ensuite Dominique Voilemot, Antoine Chauffel, Joël également, qui a été un mentor. Et donc, je rentre dans une équipe où je découvre aussi ce qui est le rythme non plus du stagiaire mais du collaborateur. Et alors, une petite anecdote, c'est qu'au bout de 5 mois, moi, je prenais mes week-ends. Je partais en week-end le vendredi soir. Et puis, un jour, Joël me dit, Yann, il faut qu'on se parle. Je crois que, je ne sais pas si tu te rends compte, mais moi, je travaille tous les samedis et tous les dimanches. Et donc, soit tu suis mon rythme, soit tu trouves un nouveau patron. Et là, je me suis dit, ah, je n'avais pas tout compris. Je n'avais pas intégré qu'il fallait que je travaille le week-end. Bon, OK. Et là, c'est mais un peu la piqûre Grossman. Hein, c'est-à-dire qu'au lieu de me dire, bon, bah, voilà, ce n'est pas fait pour moi, ces gens sont dingues, eh ben, ça va créer l'inverse chez moi et je vais me mettre à travailler énormément.
Quand tu dis énormément, tu peux nous en dire un petit peu plus?
Bah, je travaillais, non pas que je ne travaille plus, hein, ouais. Mais bah, c'est du 9h, au moins 21h tous les jours, puis parfois plus, et puis c'était au moins un des deux jours du week-end, samedi ou dimanche.
Qu'est-ce qui t'anime en fait, au fond de toi pour que tu puisses tenir? Parce que tu vois, à l'époque chez Gide, les rémunérations étaient belles.
Non,
mais à l'époque, mais c'était pas aussi important que celle-ci, celle que vous avez aujourd'hui, etc. Et tu travaillais plus que ce que les collaborateurs aujourd'hui dans les grands cabinets travaillent. Les années 90, c'est bien connu. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'était le cas chez Gide, mais dans tous les autres cabinets d'avocats, tu travaillais plus dans les années 90 que ce que tu travailles maintenant. Qu'est-ce qui te faisait tenir?
Moi, je pense que ce qui me faisait tenir, c'était à la fois une forme d'envie de bien faire et de montrer que j'étais capable d'être au niveau. Parce que ma première année était une année assez compliquée et c'est aussi un enseignement pour moi vis-à-vis de mes jeunes collaborateurs aujourd'hui, c'est de leur laisser leur chance. Ça, c'est quelque chose qui, moi, guide beaucoup la manière dont je recrute les gens et dont je les laisse travailler et mûrir. C'est que je ne me vois pas dire à quelqu'un de partir au bout de 3 mois, 6 mois, en disant on s'est trompé, et un junior. Je trouve qu'il faut, alors c'est vrai qu'il y a la complexité des REM, hein, bon, c'est pas simple, mais il faut que les gens aient leur chance. Et moi, on m'a laissé ma chance parce que je pense qu'en sortant de mon service militaire, je crois que j'avais tout oublié. Hein, le droit de la concurrence, le code civil, j'avais vécu heureux au soleil et le choc a été un peu rude et vraiment m'y remettre, ça a été un vrai challenge pendant la première année. Et je pense que, alors c'est aussi un de mes traits de caractère, c'est que j'ai enfoui un peu chez moi une forme de rage sur tout et qui me sert dans mon activité contentieuse. Voilà, et quand je pense qu'on commence à mal me juger ou à me sous-estimer, ça déclenche des mécanismes, une forme de révolte, mais voilà, non pas de révolte en disant mes 4 vérités aux gens, mais plutôt en leur montrant qu'ils voilà, ne se sont pas trompés. Donc, et ça va être quelque chose de très intense pendant toute ma carrière, mais... pendant mes premières années, jusqu'à en arriver à une étape importante dans ma carrière professionnelle, qui est la conférence du stage. En fait, depuis la deuxième année de collab chez Gide à peu près, j'ai commencé à faire des comparutions immédiates. Donc, j'avais fait la formation pénale, je fais des comparutions immédiates. Donc là, je fais ça les week-ends, bon, pour ne pas trop mordre sur ma vie professionnelle chez Gide. Et là, c'est quand même une découverte pour moi de plaider le samedi, parfois jusqu'à minuit, à la chambre des comparutions immédiates, à essayer de réduire les peines, d'obtenir des relax. Ça a été quelque chose qui m'a aussi énormément appris dans ma vie professionnelle, que de sentir que, en tant qu'avocat, j'étais au plus près de mon métier aussi, et d'être utile, d'être parfois le dernier rempart pour quelqu'un qui n'a plus rien souvent dans sa vie. Alors, donc ça, il y a un travail qui se fait par les comparutions immédiates, et je me décide donc à passer la conférence du stage au bout de 4 ans de chez Gide, 4 ans à peu près, alors tout en faisant des dossiers de droit de la concurrence, parce qu'à ce moment-là, je suis notamment sur le dossier Monoprix, donc le rachat de Monoprix par Casino, donc qui est un dossier qui va me prendre beaucoup de temps, qui va être un de mes dossiers très marquants à ce moment-là de ma jeune carrière, et je passe les étapes du concours. Au début, très bien, je passe le premier tour, et puis le deuxième, qui est le tour le plus difficile, qui est un tour absolument magique, et puis le troisième, et là... Ah, et pardon, la
conférence du stage, vous avez au départ, à peu près 300-400 candidats, c'est le premier tour qu'on garde 36, au deuxième tour qu'on garde...
Si, on en garde 36 après le premier tour. 24 et 12 à la fin. Voilà. Et chacun a un numéro avec une fonction. Et à ce moment-là, je pense que chez JIT, j'étais quand même arrivé un peu au bout d'un cycle, parce que c'est vrai qu'il y a des cycles dans ce métier. Et je trouve que très souvent, autour de la 5e, 6e année, il y a une forme de cycle. Et la conférence va être une vraie bouffée d'air pour moi dans ma carrière. Je vais faire du pénal à outrance parce qu'on a quatre commissions d'office, c'est-à-dire qu'on est à la fois commis d'office pour les affaires criminelles, donc deux fois par mois à Paris. J'étais commis avec un monopole pour la conférence du stage, pour les secrétaires de la conférence. On était commis d'office aussi au pôle financier. Donc avec des dossiers absolument passionnants donc en commission d'office, plus toute l'activité de représentation du jeune barreau à ce moment-là, les rentrées de Paris, la rentrée de Bruxelles, la rentrée du Québec, une année complètement dingue, que moi je peux qu'inviter tous les jeunes avocats à passer parce que c'est vraiment une année qui marque. C'est une année à laquelle il faut faire attention parce que c'est une année qui prend une énergie absolument dingue. Et surtout, il faut pouvoir rebondir après cette année-là. Parce que peut-être que certains oublient que, voilà, il y a une vie après la conférence. Et, c'est possible. Oui, parce que c'est vrai qu'on touche à des dossiers qui sont stratosphériques. Moi, j'avais défendu plein de choses, une braqueuse de banque, des choses absolument exceptionnelles. On a été commis d'office, ce qu'on appelle des assises express. On était trois à être commis à 15 jours. Donc, pour aller plaider aux assises, on va plaider aux assises. On plaide énormément. On a plein de débats devant le juge des libertés, de la détention. On est proche du bâtonnier, on est proche du conseil de l'ordre. C'est vraiment, quand on est jeune avocat, on a tous entre 26 et 30 ans. En fait, à ce moment-là, c'est une année de feu. Hein, c'est une année absolument magique et qui, moi, je n'avais absolument pas faite pour mon futur chez JIT, parce qu'à ce moment-là, je ne pensais pas devenir associé chez JIT, mais qui, sans m'en rendre compte, va m'irriguer. Et je pense qu'aujourd'hui, ça me sert toujours. Alors, je pense qu'on n'a absolument pas besoin de passer par la conférence pour bien plaider, pour être à l'aise, etc. Mais moi, ça m'a beaucoup nourri, ça m'a beaucoup irrigué. Et quand j'ai terminé la conférence du stage, Antoine Chauffel m'a dit, qui était donc avec Joël l'associé à ce moment-là donc de l'équipe, on est dans les années, je réfléchis, 2000, moi je suis secrétaire en 2001 et Antoine était rentré de Bruxelles, Antoine Chauffel était rentré de Bruxelles. Et il me dit, bah, écoute maintenant, toi tu sais plaider, donc tu vas aller plaider. Et donc il m'a donné de plus en plus les dossiers de l'équipe à aller plaider au tribunal de commerce, en correctionnel parce qu'on faisait aussi le droit pénal économique, à l'autorité de la concurrence. Et donc je me suis retrouvé, alors c'était vraiment pas le dessin, moi c'était voilà, avoir une bulle d'air dans ma carrière, quelque chose à moi, je me suis retrouvé finalement relancé. Mais aussi grâce à Antoine Chauffel dans ma carrière chez JIT, alors que ce n'était pas du tout l'objectif que j'avais poursuivi. C'est vrai que quand on sort de la conférence, très souvent on a la tentation du pénal. On se dit je vais laisser tomber la matière qu'on fait. Il y en a qui font du M&A, il y en a qui sont des pénalistes. Il y a toujours des pénalistes dans une promo. Moi j'ai donc la concurrence, et puis on se dit il faut peut-être que je me lance. Et puis, on peut avoir aussi quelques contraintes familiales. Et puis, se dire, mais vraiment... Et puis, moi, j'en avais beaucoup parlé avec celle qui avait été ma quatrième secrétaire, qui est Cécile Soriano, qui est devenue magistrate depuis, qui elle était une pure pénaliste. Et de fil en aiguille, je me suis dit, finalement, je suis bien chez JIT, je suis bien là où je suis. Et finalement, le mix... il est parfait. Si je peux continuer à faire un peu de pénal, tant mieux. Et voilà.
Mais aujourd'hui, tu es l'un des avocats sur la place, si je ne me trompe pas, qui utilise énormément les droits de l'homme dans ta matière, qui joue avec, les droits de l'homme, c'est vraiment une phrase hasardeuse et moi je n'aurais pas été retenu à l'audience. Mais est-ce que c'est là, pour la vraiment bien vu, en tout cas, tu as cette sensibilité, ou en tout cas, c'est ça qui éveille cette sensibilité aux droits de l'homme.
Alors, ce que j'acquiers beaucoup à la conférence, c'est l'esprit de défense, d'une défense forte, notamment vis-à-vis du parquet. Ça, c'est quelque chose où finalement, à 28-29 ans, on apprend à se révolter à l'audience et à ne pas hésiter à renvoyer dans ses buts le parquet. Ça, c'est quelque chose que j'apprends finalement assez jeune, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il ne faut pas avoir de déférence à l'égard des autorités de poursuite. Et ça, c'est quelque chose que, alors toujours être poli, bien entendu, mais il faut savoir fixer les limites, hein, qu'il s'agisse d'une autorité de concurrence, que ce s'agisse du ministère public, d'un officier de police judiciaire, de la DGRF. Ça, c'est quelque chose que j'apprends. Ce que j'apprends aussi beaucoup et que je cultive en effet depuis beaucoup, c'est les aspects procéduraux. C'est-à-dire que dans les dossiers, de manière générale, j'apprends à soulever des nullités, à ce moment-là, des nullités pénales, pour obtenir, et j'en ai obtenu un certain nombre, donc des annulations devant la chambre de l'instruction, des relax également, sur des questions procédurales. Et ça, c'est quelque chose que, notamment une personne donc, dans le groupe de la conférence, que je travaille avec lui, et que je vais développer, finalement, au fur et à mesure de mes années, pour faire. Alors, moi, j'aime pas faire de la procédure quand il n'y a pas lieu. Ça, c'est ce que je dis toujours à mes collaborateurs, ça n'a aucun sens, surtout c'est le pire, ça agace les magistrats. Mais c'est vrai que ce que tu dis, en fait, je me suis dit, mais il y a quand même toute une sphère qui est la sphère des droits fondamentaux consacrés par la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, je suis pas le premier, hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose que dans mon équipe et que moi, je cultive beaucoup, qui est dès lors que je trouve que dans un dossier de concurrence, dans un dossier de droit économique, avec la DGRF, avec la Commission européenne, il y a une problématique de droits fondamentaux, il y a une problématique de procès équitable, il y a une problématique d'accès au dossier, il y a une problématique de loyauté des enquêteurs, eh bien, on le fait valoir. Et on en reparlera peut-être, mais on a un certain nombre de résultats sur ces sujets. Et c'est vrai que, bien entendu, il y a le fond, le travail, mais sur la thématique procédurale, et d'ailleurs que c'est la procédure, la thématique procédurale droits fondamentaux, mais c'est aussi la procédure civile, puisqu'on fait aussi beaucoup de procédures civiles donc, dans nos dossiers, c'est quelque chose que on travaille beaucoup dans l'équipe. Il nous arrive de poser des QPC, des questions préjudicielles. Voilà. Et donc, on a tout un éventail. En fait, on est très en alerte sur ces sujets-là.
Très bien. Tu deviens associé quand chez Gide ou comment?
Alors, je deviens associé chez Gide en 2005. Je deviens associé un peu difficilement. La naissance a été compliquée parce que, en fait, l'un des reproches qui m'était fait à ce moment-là, on disait toujours, mais Yann, il est trop proche d'Antoine Chauvel. Finalement, il a toujours besoin de lui parler, il est trop... Voilà. Antoine était quelqu'un qui était très... un excellent technicien, très grand plaideur, qui prenait pas mal de place dans l'équipe. Hein. Donc, c'est vrai qu'il restait assez peu d'air, fondamentalement. Et c'est vrai que, quand les collaborateurs, on était tous pas mal dans sa roue. Donc, c'est vrai que ça a été assez... il a fallu faire un travail de conviction auprès des autres associés pour que... Antoine y a beaucoup œuvré pour que je sois élu associé en 2004 pour rentrer en fonction en 2005. Et là encore, quand j'ai été élu ensuite, ça a fonctionné très vite. Très vite, les choses sont mises en place.
Tu avais du business perso avant ou pas?
Alors, j'avais surtout du business que je gérais en autonomie. Voilà. Donc, il y avait des clients que j'avais développés, qui étaient des clients du cabinet, mais sur lesquels on m'avait laissé des coups des franches parce que Antoine, Joël voulaient se consacrer à autre chose. Et donc, pour moi, c'était une vraie chance, une vraie opportunité.
Et si on avait mis un portefeuille développé par le passé, par le...
Non. En fait, c'était vraiment des choses qui étaient arrivées parfois par d'autres associés du cabinet avec un petit truc. et que sur ce petit truc, j'avais commencé à développer une relation. Donc, ce n'était pas du tout un portefeuille.
Une petite plante que tu as réussi à transformer.
Exactement. Exactement. Et donc, il a fallu beaucoup l'arroser, cette petite plante. Mais ce n'était pas du tout un portefeuille de X centaines de milliers ou de millions d'euros. Non, non, c'était vraiment au début, des petites choses, des petits dossiers. Mais en étant très présent avec mes clients, en soignant, en étant très réactif avec mes clients, que j'ai progressivement développé. Et chez Gide, voilà, les choses se sont mises en place naturellement, première année qui se passe honnêtement, et puis je pense qu'à partir de la deuxième et troisième année, là c'est le déclic, et je pense que je prends mon envol assez vite à ce moment-là, on continue à structurer une équipe, à mettre en place une équipe, à faire venir des dossiers, voilà. Et c'est vrai que moi on travaillait et on je travaille toujours énormément, mais on travaillait vraiment beaucoup avec l'équipe, mais toujours dans une ambiance conviviale, bon enfant. Et ça, je pense que ça a toujours été une des très grandes forces de l'équipe et c'est quelque chose que je m'efforce de reproduire là où je suis.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu quittes ce cabinet? Sans rendre ce cabinet.
En fait, je pense que c'est un ensemble de choses. D'abord, ça m'a pris énormément de temps. Je crois que c'est 2 ans de réflexion. Alors, bien sûr, on est toujours flatté d'abord quand on se fait approcher. C'est toujours très séduisant. Oui. Non. J'ai été chassé pour prendre la tête de l'équipe concurrence chez White. Donc, j'ai regardé le dossier. Au début, on se dit, bon, pourquoi pas. Bon. Et ce dossier, je l'ai refermé plusieurs fois pendant les périodes de discussion. Parce que les choses n'y étaient pas, parce que notamment pour des questions, je ne vais pas développer trop de personnes, il y a des choses que je ne sentais pas, que je ne me voyais pas.
Donc, la culture de passer d'un cabinet français à un cabinet américain, parce qu'on dit souvent, ce n'est pas le cas chez White, pour le coup, c'est d'ailleurs beaucoup de cabinets, mais que le cabinet américain soit une entreprise nationale et qu'aurait été les vraies décisions tout à l'heure. Ça, ça te plaît pas.
Non, ça me faisait pas peur. Et d'abord, c'est pas vrai. Je trouve que le bureau de Paris, White, a une vraie autonomie, une vraie indépendance. C'est vrai que chez White, il y a le bureau de Paris est le troisième bureau de la firme. Donc, c'est un bureau qui compte énormément au sein du... Non, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai appris de mon papa. C'est une espèce de culture entrepreneuriale. Il y a un moment, il faut savoir prendre peut-être des risques, mesurer dans sa vie. Voilà, j'étais quand même dans ma zone de confort, c'était pour faire du droit, mais il y avait forcément une prise de risque dans ce passage. Parce que chez Gide, à la fin, je dirais que mon scooter, il connaissait la route par cœur. D'ailleurs, il m'est arrivé un jour, alors que j'avais commencé chez White depuis 6 mois, je me suis retrouvé devant le parking de chez Gide avec mon scooter. Et là, je me suis dit, waouh. Je me suis dit, je n'ai pas complètement coupé le cordon, manifestement. C'est un ensemble de choses, c'est-à-dire que j'étais peut-être arrivé au bout d'un cycle, d'une certaine façon. C'était vraiment très compliqué parce que j'étais très très proche donc d'Antoine Chauffel particulièrement, d'autres personnes de l'équipe, des collaborateurs, et donc ça a été vraiment quelque chose où je suis passé par des hauts et des bas en faisant du vélo avec mes copains. Ça a été vraiment. Et puis, il y a eu des petites choses qui, à un moment, mettent parfois le feu à la mèche, un conflit d'intérêts sur un de mes clients majeurs chez Gide, et donc des arbitrages pas toujours en ma faveur. Et je me sentais peut-être à un moment contraint. Je me disais, mais est-ce que je peux vraiment me développer comme je veux? Et puis, il y avait peut-être une volonté par rapport justement de me dire, de montrer que j'étais peut-être ou pas capable de monter mon équipe, d'avoir une présence.
Finalement, tu avais commencé avec Antoine et Dominique, ils étaient toujours là.
Alors Dominique était parti à un moment, mais Antoine était le patron de l'équipe, Joël était toujours là. Donc en fait, ce qui avait été mes boss étaient devenus mes associés, mais c'est sûr que ça crée toujours un lien particulier, exactement. Et donc, à un moment, je me suis dit, voilà, il faut peut-être que je relance les dés. C'est le moment. On y va. Il faut sauter à l'eau. Et ça a été très douloureux, très très compliqué. 15 jours très compliqués chez Gide, pour toutes les raisons humaines. Oui, ça a été. Ça a été vécu comme tel. Ouais. Mais je m'y attendais. Mais ça a été, je me souviens d'un week-end très très compliqué. On m'avait demandé de réfléchir. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, en plus, quand ça fait 2 ans qu'on réfléchit, c'est le truc est trop engagé, en fait.
Et comment ça se passe les négociations avec Wipe? Qu'est-ce qu'ils attendent de toi? Qu'est-ce qu'ils vendent comme projet? Plutôt, qu'est-ce que tu leur vends aussi comme projet?
Ils attendent de moi de prendre la tête de l'équipe, de les accompagner sur leur dossier merger, notamment leur dossier concurrence, de prendre la suite de Jean-Paul Trentiette qui à ce moment-là donc s'occupait de l'équipe. Je suis venu avec 4 de mes collaborateurs à ce moment-là et moi-même j'arrivais avec ma propre activité. Donc pour moi c'était à la fois bien sûr continuer ce que je faisais, mais acquérir une dimension internationale que finalement j'avais peu chez Gide. Donc l'idée c'était aussi pour moi de rentrer dans un cabinet, dans une firme avec une dimension plus internationale et de voir un autre mode de fonctionnement que chez Gide et de travailler sur des dossiers beaucoup plus internationaux que ce que j'avais pu faire. J'avais aussi un copain qui était Hugues Mathèse en M&A. Et puis je trouvais les associés sympas. Donc j'en avais rencontré un certain nombre. Et puis je me suis dit, si je le fais jamais, si je le fais pas, je le ferai jamais. Voilà.
Et vu que tu soutiens tout ce que tu fais, c'est finalement... Tu rentres chez Wipe en quelle année?
2016.
En 2016, ça ressemble à quoi Wipe en 2016?
2016, on doit être 30 associés. On était déjà Place Vendôme, mais c'est un cabinet qui historiquement a toujours été Place Vendôme parce que quand ils ouvrent leurs portes en 1925 à Paris, donc un des tout premiers cabinets américains, on se rapproche, ils sont déjà Place Vendôme en 1925. Je pense qu'ils étaient moins nombreux. Ça ressemble. Je suis assez étonné d'ailleurs parce qu'il y a et qu'il existe toujours un partner's lunch chez nous tous les 15 jours. En français, parce que je me suis dit, est-ce qu'on ne parle que l'anglais? Non, on ne parle pas que l'anglais chez Wipe. Et puis, des mecs qui plaisantent, enfin, des mecs, bien entendu, et des femmes. Une bonne humeur, une convivialité. C'est quelque chose qui se met en place, en effet, assez naturellement et avec un partnership donc, d'une trentaine. Aujourd'hui, on est 53. Aujourd'hui, on est 200 avocats. Donc, à l'époque, je ne sais pas, il y a 7 ans, on devait être autour de 130. Donc, aujourd'hui, c'est une firme, je pense, en effet, qui est l'une de celles qui est le plus en plein boom sur la place de Paris, je crois. À la part l'arrivée aussi de toute une série d'associés par la suite, dont Sam Golshani, Marc Métitier. Voilà. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais.
Ouais. Ok, très clair. Il y a beaucoup d'associés qui travaillent dans des cabinets français et qui, à un moment donné, au niveau de leur portefeuille, estiment avoir touché un plafond de verre et se disent qu'en allant dans une firme américaine, les dossiers qui nous touchent en anglais, les dossiers qui ne nous touchent pas aujourd'hui, les clients qui n'arrivent pas à toucher aujourd'hui, ils réussiront à les toucher au sein de ces cabinets. Est-ce que ça, tu l'as constaté pour voir ta psychopathie?
Alors, je pense que c'est en partie vrai. C'est en partie vrai parce que ça dépend aussi d'abord de soi-même et de la manière dont on va contacter ses associés pour leur dire, tiens, j'ai vu que tu travailles avec un tel, est-ce que tu peux me les présenter? Donc, à la fin, je pense que c'est ce que tu dis est peut-être très vrai, notamment dans les firmes de Magic Circle, où je crois que la puissance du réseau est vraiment très importante. Chez White, il faut quand même, voilà, il faut quand même prendre les contacts nécessaires avec avec ses associés. Après, c'est vrai que ce sont des cabinets qui sont à recherche des dossiers qui ont des couvertures européennes, multijuridictionnelles, mondiales, si possible, des clients mondiaux. Et c'est ça qui est assez bluffant dans ces cabinets, c'est de voir que y a finalement une série de grands comptes, notamment, et pour lesquels on va créer tout un environnement, tout un écosystème pour qu'ils se sentent bien chez nous, pour que ça continue à fonctionner. Et ça, la manière dont on accompagne, c'est vrai, certains clients est assez épatante. Après, moi, ça m'a permis, c'est vrai, de toucher à certains dossiers que peut-être je n'aurais pas eu chez Gide. Oui, c'est possible. Après, c'est toujours compliqué de faire ce qu'on appelle le contrefactuel dans mon métier. Mais ce que je trouve le plus marquant, notamment parfois, c'est la capacité à travailler en équipe, en ce sens que d'avoir un seul homme et puis toute une équipe derrière, des Allemands, des Belges s'il faut, des Italiens, des Espagnols. Bon, non pas que on ne sache pas le faire chez Gide, mais on va forcément aller chercher des compétences dans des cabinets amis. Ce qui soulève souvent d'autres sujets pour organiser l'équipe, de FIS, les sujets de ce type-là. Mais là, en revanche, c'est voilà, il y a une tête et puis tout le monde se met derrière.
Ça m'intéresse vraiment ce que tu dis là parce qu'on pourrait penser que c'est contre-intuitif. Je m'explique. Dans les cabinets américains, on le sait, on va revenir dessus, le système de rémunération majoritaire des associés est en gros, est payé par rapport à ce que tu rapportes. Ce qui est quand même moins le cas, qui existe quand même, mais qui est quand même proportionnellement moins le cas dans les cabinets français. Et là, tu m'expliques un truc que je trouve vraiment ultra intéressant, c'est que les avocats associés du cabinet américain comprennent qu'ils ont besoin des autres pour pouvoir bosser et réussissent quand même à se mettre autour de la table de façon plus simple dans les cabinets français. Et même sans parler de moi, je travaille dans les cabinets français et je remarque non. Comment est-ce que tu m'expliques ça? C'est la culture, c'est quoi?
Alors c'est peut-être la culture White parce que je connais pas forcément les cultures des autres maisons, mais c'est vrai que chez White, ce qui m'a toujours impressionné, c'est la vitesse à laquelle les gens te répondent. Alors ça, c'est un truc, ça m'a toujours épaté de voir à quel point quelqu'un aux US, en Allemagne, va répondre à n'importe laquelle de mes demandes. Donc il y a forcément, je pense, une part de culture maison chez White qui est importante. Après, il y a aussi, me semble-t-il, le système de rémunération où on rémunère, comme beaucoup de cabinets, mais l'origination, et puis ceux qui travaillent sur le dossier. Donc, on essaie de faire en sorte que celui qui va être en Allemagne à suer jour et nuit sur ton dossier, va par un système de crédit y trouver une forme de compensation, parce que sinon, ça devient quand même plus compliqué.
Quelle est la relation entre l'origination et le traitement?
Non, c'est-à-dire que alors c'est toujours le fruit d'une discussion. En général, il y a des guidelines quand même. Il y a des guidelines en interne qui existent. Mais alors, c'est vrai que ce qu'on peut séparer chez nous, c'est l'origination. Et là, on peut être très nombreux. On peut imaginer un dossier où il y a des Allemands, des Espagnols, des Anglais. Et donc, celui par qui vient le dossier, il va proposer quelque chose à ses partenaires. Donc là, voilà, très souvent, les gens disent « Ok, super, peut y avoir une petite discussion à ce moment-là ». Et après, on a chez nous aussi celui qui est le matter, donc le partner, qui va vraiment le travailler le plus sur le dossier. Et puis, il y a le billing. Bon. Et tout ça peut être dissocié. Donc, ça peut être totalement unifié. On peut à la fois avoir 100% de l'origination. Le matter, il n'est pas divisible et le billing n'est pas divisible. Donc, ce qui est vraiment divisible, c'est l'origination. Et là-dessus, ce qui va permettre quand même, voilà, que chacun y trouve son compte, notamment sur les grands dossiers, il y a une forme donc d'incitation qui se crée. Et ça, je pense que c'est absolument crucial que les gens jouent le jeu, parce que le risque, c'est que bien entendu, c'est que les gens gardent chez eux le plus possible les crédits, ce qui grippe le système.
Et l'origination, elle est sur le dossier ou sur le client? Imagine, on est toi et moi, on est associés au sein du cabinet, tu me fais une autopromotion assez sympa. Un jour, je ramène Martin Bouygues, je pique Jean-Michel, et je leur amène, et du coup, les deux concurrents vont aller maintenant chez Wagner Gaze, ou peu importe s'ils sont déjà chez toi, ça va. C'est sur Martin Bouygues que j'aurai mon origination, ou c'est sur le dossier en question que toi tu vas réussir?
C'est une très bonne question. Pour moi, la manière dont moi je le vis, en tout cas, et je fonctionne, en tout cas, c'est que c'est par rapport au dossier. Donc, si demain, l'associé de MNA, de fiscal, qui va se faire repérer vis-à-vis d'un de mes clients et se voit attribuer un dossier, il va être appelé par le client en direct, il va me prévenir, me dire, écoute, voilà, comment veux-tu faire? Et moi, je vais lui dire, écoute, prends le dossier. En général, il va me donner de l'origination, mais je vais lui laisser le matter in billing. Donc, voilà. Mais ça c'est ma façon de fonctionner. En tout cas, chez White, et je pense que c'est important parce que moi, j'ai été élevé dans cette culture, qui est la culture, c'est vrai, Gide, qui est une forme quand même de générosité, voilà, de s'assurer que aussi bien mes associés que ceux qui vont le devenir et qui le deviennent, voilà, puissent aussi se développer, vivre et se développer. Parce que sinon, le système, il fonctionne en vase clos.
C'est ce qui fait que, en fait, j'ai été plusieurs fois, et ce qui fait que beaucoup d'autres cabinets ont encore...
Oui, oui. oui, ça, enfin, oui, oui, pour d'autres cabinets. Il faut faire très attention, en effet. De toute façon, les REM, c'est quand même une des grandes causes d'explosion des cabinets. Donc, ou de départ d'équipe. Ça et les conflits d'intérêts. Donc ça, c'est quand même les deux grandes causes. Après, il y a d'autres sujets parfois, mais...
Et alors du coup, ça fait 7 ans, c'est mes quelques questions que tu parlais chez White & Gaze. Comment est-ce que tu as pris tes fonctions? Parce qu'avant, tu étais, si je puis dire, sans éliminer ton rôle chez Gide, associé en droit de la concurrence. Là, aujourd'hui, tu es associé directeur d'équipe, ou en tout cas, c'est pour ça que tu as été recruté. Comment est-ce que tu prends tes fonctions de construction stratégique, que tu avais déjà en partie chez Gide, mais là, tu les prends quasiment en monopole? Comment ça se passe?
Ça s'est passé assez naturellement pour moi. Les choses, très vite, mes associés chez White m'ont vraiment super bien accueilli, m'ont confié des dossiers, identifié comme le patron de l'équipe. Donc, c'est vrai que pendant de nombreuses années, j'étais le seul partenaire de l'équipe. Finalement, je vais me retrouver à structurer, organiser toute une équipe à ma façon, la manière dont je l'imaginais, où parfois je pouvais me dire chez Gide, moi j'aurais plutôt fait ci, j'aurais plutôt fait ça. Et là, je me suis retrouvé, avec la responsabilité derrière d'un patron d'équipe, à monter cette équipe. Alors, je dis à monter, mais il est important d'y associer tous ceux qui me suivent depuis de nombreuses années, qui sont aujourd'hui mes consuls, qui vont devenir mes associés. Et franchement, moi, sans eux, je ne serais pas là. J'ai toujours considéré que l'équipe, bien entendu, j'y joue un rôle important, mais c'est une réussite collective, d'abord. C'est hyper important parce que je vais même les citer. Il y a notamment Costanza, Michael, Anouk. Et ensuite, j'ai été rejoint par Jérémy de chez Linklaters, mais qui très clairement participe à une réussite collective depuis certains pour ceux qui m'ont suivi de chez Gide. Et Jérémy, ça doit faire 3 ans de mémoire qu'il est dans l'équipe. Et ça, c'est hyper important parce que moi, je ne vois pas ma carrière, je ne vois pas un solo égoïste de quelqu'un qui finalement... ce qui est beau dans ce métier, c'est quand on amène des gens au partnership, quand on les voit se développer, qu'on les voit mûrir, s'épanouir, ou parfois ils nous quittent, mais pour devenir directeur juridique d'une boîte, moi j'ai un de mes collaborateurs aujourd'hui qui a un poste hyper important à l'autorité, je suis hyper content pour lui, il fait une carrière absolument splendide. Donc ça, je trouve que la satisfaction du chef d'équipe, appelons-le comme ça, c'est d'emmener les gens quelque part. Si c'est pour que rien n'est poussé, et que rien ne repousse comme Attila, ça veut dire que c'est un échec. En fait, c'est un constat d'échec d'une carrière qui, ouais, ça, j'en suis assez convaincu.
Vous faites partie d'une des équipes numéro un sur la place du barotac au niveau du droit de la concurrence. C'est qui ces compétiteurs directs que tu retrouves en place de toi sur le dossier?
Bon, les grands compétiteurs, c'est Bredin, qui est quand même une très très belle équipe. Hein. Moi, j'ai eu pas mal de copains là-bas, dont Igor, que je connais depuis Strasbourg. Jean-Daniel, que j'ai, moi, sur d'autres types de contentieux, parce que c'est vrai que je fais à la fois la concurrence et je fais aussi une partie district conso, que font pas d'autres équipes de concurrence, mais moi, j'ai toujours fait, là, pour le coup, j'ai importé ce qui était le modèle GIDE, donc, chez White, me disant que, bah là, il y a des moments où il y a moins de concurrence, et donc, c'est bien d'avoir un espèce de fond de cuve, hein, je vais l'appeler comme ça, et qui est beaucoup plus glorieux qu'on ne pense, hein, parce qu'avec des très beaux contentieux, des très beaux dossiers, qu'on est bien content d'avoir lorsque, bah, il n'y a pas de merger parce qu'il n'y a plus de M&A, ou que, bah, il n'y a pas d'antitrust, bon. Qui sont très structurants et qui sont surtout qui, moi, me permettent en plus de former mes collaborateurs aussi au contentieux, parce que je pense que dans le passage de témoins, il faut aussi qu'ils apprennent à plaider. Et l'un des problèmes du droit de la concurrence, c'est que, bien entendu, les clients, ils veulent le partenaire pour plaider, ce qui est logique, et ils veulent jamais le collab. Et donc, en fait, le collab, qu'est-ce qui lui arrive? Un jour, il devient partenaire, ou presque, ou vers la fin, bah, il se met à plaider. Mais en fait, il n'a jamais été formé, ou très peu pour ça. Et ça, ça a été toute l'école donc, de là où je viens, donc de GIDE. C'est le cas dans certains cabinets aussi, mais pas tous. C'est quand même d'aller au contentieux, d'aller au commerce, nous, on a aussi des dossiers au tribunal administratif. Et moi, j'envoie, dès que je peux, mes collaborateurs, je co-plaide avec eux, le plus possible pour qu'ils apprennent leur métier. Moi, ce sur quoi j'insiste avec eux le plus possible, c'est que ce sont des avocats, ils sont indépendants, ils doivent assumer leur dossier comme un avocat, ce qui veut dire que ce que je leur dis toujours, c'est si tu étais à ton compte demain, est-ce que tu enverrais ces conclusions, est-ce que tu enverrais ce papier? Si la réponse est non, c'est que c'est pas bon. Donc, je suis là, moi, derrière, je relis, mais l'objectif, n'écris pas ton papier en disant, mais de toute façon, Yann va relire. Dis-toi, je prépare mon papier comme s'il devait partir demain au client. Et c'est ça le test, en fait, le bon test. Donc, ça, c'est dans les valeurs que moi, j'essaye donc de diffuser donc dans mon équipe. C'est ces valeurs, donc, bien entendu, c'est un mot un peu à la mode, de bienveillance, mais que les gens s'entendent, quoi, qu'il n'y ait pas d'esprit de concurrence entre eux, mais aussi qu'ils soient près du métier, qu'ils soient près de la profession, qu'ils soient près du barreau, qu'ils aient envie de plaider, qu'ils aient envie de gagner leur dossier. Ce que je dis toujours, parce que j'enseigne un peu, je dis toujours à mes étudiants, si vous rentrez pas dans une salle d'audience avec, en vous disant, je vais tout exploser et je vais gagner. Alors, bien sûr, pas en défonçant le juge ou le bureau ou son adversaire, ça sert à rien. Il faut changer de métier. C'est des métiers où il faut avoir la rage quand on fait du contentieux et dans la construction du dossier. Alors, bien sûr, on gagne pas toujours. Le but, c'est de gagner le plus souvent possible. Mais ça, c'est un trait de caractère. Et c'est pour ça que moi, dans les recrutements que je fais, bien sûr, le CV est important, mais je cherche aussi des profils, des gens dont je me dis ça va coller avec l'équipe. Ce sont des gens qui vont, dont je sens qu'ils ont envie, qu'ils vont avoir l'envie du contentieux. Et aussi, moi, j'essaie de faire en sorte, mais ça, c'est mon atavisme, de pas avoir que des Parisiens. Et j'attache beaucoup d'importance à ce que des personnes qui viennent un peu partout, de province, aient leur chance et puissent travailler dans des équipes de ce type-là. Donc, là-dessus. Et c'est une équipe qui aujourd'hui, je crois, fonctionne plutôt bien, j'en suis même sûr. Alors après, il y a Bredin, il y a bien sûr Gide, Darrois, l'équipe de Philippe Guibert chez Depardieu. C'est souvent les équipes qu'on voit très souvent. Nathalie Jalabert, Doury également. Voilà, ce qui est déjà pas mal. Alors, j'en ai peut-être oublié.
Deux dernières questions à te poser, parce que tu as pris bien plus de temps que ce que j'en aurais normalement dû prendre. C'est quoi le plus beau dossier de ta vie à l'heure actuelle? C'est pas forcément les plus gros, mais ceux sur lesquels tu sens que tu as eu un impact très fort. Et donc, tu es fier.
Alors, il y a deux dossiers dont je suis très fier. Il y en a un où, je peux le dire parce que c'était pour le Crédit Agricole, c'était maintenant, j'étais chez Gide, où on a fait exploser toute la procédure. Toute la procédure, c'était une affaire à l'autorité de la concurrence. Et ce jour-là, je me souviens parce que c'est une époque où l'autorité de la concurrence et la DGRF avaient pris cette position un peu curieuse, qui était de sortir les avocats lorsqu'ils faisaient des opérations de perquisition. Et donc, ils leur disaient, vous n'avez rien à faire là, vous n'êtes pas prévu par le texte, dehors. Et là, je me suis toujours dit, il y a un problème. Et un jour, donc, il y a une perquisition, et moi, j'envoie volontairement, c'était pas à Paris, c'était en province, des confrères, et je leur dis, vous y allez, si on vous met dehors, vous faites noter, mais vous sortez. Bon. Et c'est ce qui se passe. Et donc là, on rentre dans une bataille absolument phénoménale, parce qu'on va faire valoir que c'est une atteinte au droit de la défense. On perd une fois, deux fois, et on arrive en cour de cassation. Et là, je me dis, mais waouh, mais est-ce que je me trompe depuis le début? Et là, la cour de cassation annule tout. Tout. Et donc, elle se saisit elle-même et elle annule les opérations d'investigation. Et donc, un jour, elle casse sans renvoi et elle se saisit elle-même pour annuler les opérations d'investigation. On est en 2014, ce qui est très rare. Et donc là, un jour, j'ai un coup de fil de la rapporteure qui avait bossé sur le dossier pendant 5 ans. On avait eu plein d'auditions et elle me dit, écoutez, je vais vous rendre votre dossier. Donc, quand est-ce que vous pouvez venir le chercher?
Maintenant.
Et ça a été, voilà. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, qui est un dossier récent à la Cour de justice donc, de l'Union européenne, où on a travaillé avec Olivier Juvigny, avec qui j'ai énormément travaillé pendant des années, et qui est parti pour devenir magistrat, un grand avocat, avec Igor également, qui était sur ce dossier, Nathalie Jalabert, perquisition de la Commission européenne chez nos clients, perquisition difficile, et on va décider d'attaquer, là encore, les opérations de la commission. Et là, je vais...
Procédure, ouais.
Et au début, le dossier, on n'avait pas énormément de prise. Et on va pousser la commission, et aussi avec l'aide du tribunal à Luxembourg, qui à un moment va rentrer dans un rôle moteur vis-à-vis de ça, on va pousser la commission à sortir les pièces sur lesquelles elle s'était appuyée pour obtenir l'autorisation pour faire des perquisitions chez nous. Et là, on va se rendre compte qu'en fait, les règles procédurales n'avaient pas été suivies par la Commission européenne, qu'ils avaient mené des auditions, mais sans que les personnes, sans qu'ils fassent de PV, sans que les personnes auditionnées ne signent. Et donc, c'était des espèces de reconstructions intellectuelles, donc des agents de la commission faites 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois après les auditions. Et donc, quand ces pièces-là sortent, on fait valoir qu'il y a un énorme problème procédural au regard des règles de l'Union européenne, etc. Et on va perdre au tribunal sur ce point-là, donc à Luxembourg, donc en première instance. On va gagner sur un autre sujet, mais donc c'est partiel. Et donc le dossier, il avait vocation à continuer. Donc on était sur une affaire d'entente, donc avec des enjeux très lourds pour les clients. On va à la Cour de justice. Donc on bosse comme des fous, vraiment, et l'audience se passe de manière absolument magique. L'avocat général, totalement de notre côté, et on a l'arrêt. Ouais. Conclusion d'avocat général, un 14 juillet, je me souviens, l'avocat général Pitruzzella, et l'arrêt tombe plusieurs mois après, annulation totale. Et là aussi, la commission nous rend le dossier. Donc ça, ça fait partie des belles victoires. Il y en a d'autres, mais donc là, spontanément, parce que ça fait appel, voilà, justement à ce que tu disais, cette capacité procédurale, les droits fondamentaux dans les procédures donc de concurrence et de droit économique.
Je te fais le pendant, du coup, est-ce qu'il y a des dossiers, des souvenirs qui se sont mal passés, ou qu'il y a vraiment une injustice ou quelque chose qui n'était pas bon qui arrive?
Alors, je vais peut-être parler d'un de mes dossiers de la conférence, parce que c'est celui auquel je... Et c'est un dossier qui m'avait vraiment beaucoup, beaucoup révolté. Je défendais une personne qui était réfugiée en France, qui venait d'une minorité du Sri Lanka, qui venait d'une minorité qui était pourchassée dans son pays. Il avait vu ses parents assassinés devant lui, hein, ce garçon. Il arrive en France par la Grèce, dans des bateaux. Et donc moi, j'étais commis d'office ce jour-là à la conférence. Donc je récupère le dossier. Alors je vais juste transformer son prénom, parce que son nom c'est Khan, mais il y en a 700 millions, je pense, en Inde. Et on va l'appeler Adam Khan. Et je prends le dossier, je le vois, il pleurait devant moi, il pleurait. Et il me dit « je suis innocent », tout ça en anglais, « I'm innocent ». Bon, alors, c'est vrai que quand on fait du pénal, on fait attention parce qu'on a beaucoup d'innocents. Donc, je constate quelque chose qui ne va pas dans le dossier, c'est qu'il y avait eu une première interpellation des flics 15 jours avant, dans une espèce de dortoir organisé avec 15 personnes. Ils arrêtent un premier Adam Khan ce jour-là. Ils les libèrent le soir. Mais ce Adam Khan-là n'avait pas la même date de naissance que le mien, arrêté 15 jours après. Et je dis à la juge d'instruction, il y a un problème, il y a un problème d'identité, un truc énorme. Et là, elle me dit, ah oui, mais il a été reconnu par les victimes au tapissage. C'était une histoire d'extorsion avec arme. Et je dis, mais regardez, mais là, je me suis dit, mais c'est Alain Delon dans un de ses films où il y a un problème sur le nom. Et donc là, je vais déposer une requête pour le faire remettre en liberté. Il part en détention à la santé. Et à chaque fois, il pleurait, à chaque fois que j'allais le voir. Et là, je lui dis, et donc, rejet des requêtes parce que reconnu par les victimes. Et là, il y a un temps fou qui se passe pour que la confrontation ait lieu. Et 6 mois après, donc là, la juge d'instruction dit est-ce que vous reconnaissez monsieur machin, parce qu'en fait, il y avait plusieurs personnes qui avaient été interpellées. Ils étaient une dizaine dans ce truc-là. Et à un moment arrive donc le mien, Adam Khan, et là, ils se disent on n'est pas sûr. Donc là, je dis à la juge, là, il faut aller un peu plus loin là. Donc reposer la question. Et à ce moment-là, ils disent non, il n'était pas là. Voilà. Donc 6 mois de prison. Et là, je me suis dit, bien sûr, je me suis dit la chaîne a été défaillante parce que c'est quand même terrible. Alors bien sûr, il avait été reconnu, mais par des gens dans un tapissage qui ont peut-être regardé un peu vite. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là dans le tapissage? Et je me suis dit, mais est-ce que j'ai été assez bon? Est-ce que je suis allé assez au fond des choses dans les mises en liberté? Et puis je me dis d'un côté, mais de toute façon, j'étais aussi face à une juge qui voulait pas le remettre en liberté. Voilà, ça fait partie des choses que... Et en fait, ce type-là, il vendait des roses à la sauvette. Et depuis, je peux te dire que je ne regarde plus jamais les vendeurs de roses de la même façon.
Et alors, ça, c'est un peu le pire défaut, c'est le perfectionniste. Parce qu'en vrai, tu réussis quand même à le faire sortir du plus tôt.
Oui, mais... C'est sûr.
Ça, c'est un autre dossier.
Ah, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais tu vois, tu te dis... Tu le prends pour toi aussi, parce que tu te dis, mais j'aurais dû me battre plus, j'aurais dû déposer plus de demandes de mise en liberté. Et voilà. Ouais. Mais tu vois là, et en fait, je me suis toujours dit, oh là là, mais la justice parfois, elle a des espèces d'effets de cliquet où une fois qu'elle s'enclenche, pour qu'elle reconnaisse qu'elle a tort, c'est très compliqué, quoi. Et ça, il faut toujours regarder ça de manière quand même très humble. Ce que je te disais, c'est travailler ces dossiers à fond et avoir un esprit de défense.
Très bien. Yann, j'ai une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? T'as été associé chez Gilles, t'es associé chez Weekend Games, t'as fait une belle pratique, une équipe qui tourne très très bien sur la place de Paris. Je te présente
alors. Pour la suite, moi, ce que je souhaite surtout, c'est que mon équipe continue à se développer et que ceux en qui je crois puissent devenir mes associés. Je pense que la suite la plus logique, c'est que ceux qui m'entourent, ceux qui sont à mes côtés et qui participent du succès, se voient aussi reconnaître et je vais les pousser pour ça, associés donc dans cette structure.
Très bien. Yann, je te remercie pour tout le temps toujours à tenter. Je suis sûr que ça sert à énormément aux auditeurs. Et je te souhaite que tes collaborateurs aient passé l'actuel.
Merci à toi, Valentin.
Et voilà, le podcast est fini pour aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous a plu, mais si vous en êtes arrivé jusque-là, je pense que oui. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le diffuser et à nous recommander des avocats que vous aimeriez voir sur ce podcast. Bonne journée et à très vite.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets. Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.